Vous écoutez RTL. Prenez la parole sur RTL.
Un seul numéro, 3210.
8h20 sur RTL. François Fillon, merci d'être resté avec nous pour dialoguer avec nos auditeurs. Elisabeth Martichoux est bien entendu avec nous. Et on va tout de suite donner la parole à Geneviève qui vous appelle du département du Maine-et-Loire. Bonjour Geneviève, François Fillon vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Fillon.
Bonjour.
Voilà, j'ai toujours soutenu votre cause, je vous admire. J'espère que vous passerez aux primaires de tout mon cœur. Mais si vous ne passez pas aux primaires et que nous nous retrouvons avec M. Juppé et M. Sarkozy, nous donnerez-vous des conseils pour voter? Parce que moi, en aucun cas, je ne voterai pour M. Sarkozy ainsi que beaucoup de mes amis. On l'a vécu 5 ans. Vous avez été un bon Premier ministre, très dévoué, même parfois trop dévoué. Vous avez eu tout à fait raison de dire ce que vous avez dit la semaine dernière. Qu'offrons-nous si vous ne passez pas au premier tour?
Alors voilà, la question, pardonnez-moi, c'est pour être très précis, donnerez-vous une consigne de vote si vous n'étiez pas qualifié pour la finale?
D'abord, je n'envisage pas de ne pas être qualifié pour la finale. Je sais que cette réponse ne va pas satisfaire notre interlocutrice du
Geneviève.
Département du Maine-et-Loire, que je salue. Mais moi, je suis dans une compétition. On se met en situation de la gagner. Voilà. Bon, si ça se produisait, évidemment que je donnerais des consignes de vote. Mais c'est vraiment très prématuré et je comprends la préoccupation qui est évoquée par notre interlocutrice. C'est la préoccupation de ne pas se retrouver dans le remake de 2012. Voilà. Je pense que la France a des difficultés considérables à résoudre. Elle ne peut pas les résoudre en refaisant le match de 2012.
Merci Geneviève d'avoir appelé RTL au 3210. On donne maintenant la parole à Jean qui lui vous appelle du département du Cher. Bonjour Jean.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur François Fillon.
Bonjour.
Membre du Parti Les Républicains, je vous soutiens donc à la primaire et je pense, comme vous venez de lire, que vous serez qualifié pour le second tour. Mais, soyons francs, ce qui m'interpelle un peu, en tant que fonctionnaire de l'État, ce sont vos déclarations sur la fonction publique. Nous les fonctionnaires, nous avons un petit peu le sentiment, peut-être à tort, d'être toujours sur la sellette, d'être toujours mal considéré, toujours faire l'objet d'un discours négatif. Alors Monsieur Fillon, rassurez-moi, rassurez-nous, j'aimerais connaître vos idées sur la fonction publique et l'avenir de ces membres qui ont choisi ce métier pour, avant tout, au mieux, service d'État.
Dites aux fonctionnaires que vous les aimez, François Fillon, surtout quand ils votent pour vous.
Non seulement je les aime, j'ai travaillé avec eux, et ils sont à l'origine, pour une très large part, de la force de ce pays, de la manière dont il s'est organisé, dont il s'est structuré. Simplement, aujourd'hui, on a 5 millions d'emplois publics en France. Et on a 2200 milliards de dettes. C'est insoutenable. Je suis l'un des seuls à le dire. Et on a l'impression, au fond, d'être dans un véhicule qui fonce dans le brouillard avec des conducteurs qui ne se préoccupent pas de savoir ce qu'il y a derrière la nappe de brouillard. Ben, moi, je dis que derrière la nappe de brouillard, il y a un choc frontal avec la dette publique. Et donc, il faut réduire le nombre d'emplois publics.
Dans quelle proportion ?
Et moi, j'ai fait des propositions qui consistent, en fait, à augmenter le temps de travail, à négocier des améliorations de salaire et surtout des améliorations de perspectives de carrière en échange de l'augmentation du temps de travail, ce qui consisterait d'ailleurs simplement à revenir à la situation de l'an 2000, qui n'était pas si catastrophique que ça, en termes de charge de travail.
Mais sur le nombre.
Et ça conduit, si, dans le projet que je propose, à une suppression d'environ 500 000 emplois sur la durée du quinquennat.
Du quinquennat, hein.
Ce qui est, grosso modo, ce qu'on fait dans le même temps nos voisins britanniques et nos voisins allemands, toute proportion gardée, pour permettre le redressement de l'économie du pays.
Vous avez dit on va passer la fonction publique à la paille de fer.
Non, j'ai dit le statut.
Le statut, la fonction publique à la paille de fer. C'est pas précisément un message d'amour.
C'est pas tant, oui.
Non, mais parce qu'il y a des choses, et je suis sûr que la personne qui vient de s'exprimer ne fait pas partie des catégories que j'ai évoquées. J'ai évoqué les fonctionnaires qui ont commis des fautes et qui sont réintégrés dans leur corps d'origine. J'ai évoqué toutes les mises à disposition qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. J'ai dit qu'il faudrait que les fonctionnaires qui se présentent aux élections législatives ou sénatoriales démissionnent de la fonction publique. Voilà, c'est des choses qui doivent aujourd'hui recadrer un statut de la fonction publique qui a été fait pour protéger les fonctionnaires pour assurer leur indépendance et qui a besoin d'être mis au goût du jour.
Jean, je pense qu'on a répondu très clairement à votre question. J'imagine que vous auriez envie d'en débattre avec François Fillon, mais j'essaie de prendre le plus grand nombre d'auditeurs ce matin sur notre antenne. Et maintenant, nous allons écouter Marie-Françoise. Quelle vous vous appelle aussi du Maine-et-Loire, de la région d'Angers. Bonjour Marie-Françoise.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Fillon.
Bonjour Madame.
Monsieur Fillon, qu'en est-il de votre projet d'abolir le droit du sol, qui est une mesure urgentissime, une façon de lutter pacifiquement contre les illusions de ces pauvres migrants que je plains beaucoup, et de ramener le calme surtout à Mayotte et à Cayenne?
Oui, moi j'ai toujours défendu, je défends pas un changement de passage du droit du sol au droit du sang. Je dis que les jeunes nés en France de parents étrangers devraient faire une démarche pour acquérir à 18 ans, pour choisir à 18 ans leur nationalité. C'est-à-dire une
s'engager en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, c'est d'ailleurs une disposition que nous avions mis en place lors de quinquennat précédent. Ça s'appelait la loi Pasqua, ça a été abrogé. Eh bien, il faut y revenir et faire en sorte que, quand on est sur le sol français de parents étrangers, on puisse choisir, décider de devenir français. Et si on décide de devenir français, ça veut dire naturellement qu'on accepte ce qui est prévu dans le code civil. Hein. Dans le code civil français, on prévoit que pour acquérir la nationalité française, il faut faire la démonstration de son assimilation.
Vous comptez aller à Calais ?
Je suis en contact très fréquent avec la maire de Calais et j'aurai certainement l'occasion encore de parler avec elle. Simplement, moi, je ne vais pas me promener
du côté anglais comme le préconise.
Je ne vais pas me promener au milieu des migrants avec les caméras. Voilà, c'est tout. Et cette situation est insupportable. Elle pose d'abord le problème de nos frontières. C'est-à-dire que, avant de parler de Calais, faut essayer de réfléchir comment est-ce qu'on arrive à Calais. Si on arrive à Calais, c'est parce qu'il n'y a aucun contrôle des frontières européennes. C'est pour ça que je réclame des frontières européennes qui soient contrôlées. Et puis après, il faut régler la question de Calais, parce que les décisions pour l'avenir ne règlent pas le passé.
Comment ça se règle, la question de Calais ?
Il faut prendre les migrants les uns, après les autres, regarder leur cas particulier, réexpédier chez eux un grand nombre de migrants qui, à l'évidence, ne sont pas des demandeurs d'asile, et traiter la question des demandeurs d'asile. Et puis, il faut avoir avec la Grande-Bretagne cette discussion que, semble-t-il, le gouvernement ne veut pas avoir, pour remettre en cause les accords qui ont été passés et qui, aujourd'hui, sont insupportables compte tenu de la pression migratoire.
Vous savez que c'est pas honteux de dire qu'éventuellement Nicolas Sarkozy a une bonne idée si elle est bonne. Donc, est-ce que vous pensez que le centre qu'il préconise en Grande-Bretagne serait une bonne chose ?
Non, mais il faut que les Anglais l'acceptent. C'est pour ça que je dis qu'il faut renégocier ce qu'on appelle les accords du Touquet. Et il faut discuter. Et c'est, bien sûr que c'est une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée. Mais simplement, une bonne idée, pour qu'elle soit mise en œuvre, suppose que les deux parties soient d'accord. Et donc, il y a une discussion avec les Anglais, c'est pas gagné.
Merci Marie-Françoise et bonjour Véronique. Vous nous appelez du Puy-en-Velay. François Fillon vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Fillon, Véronique. Bonjour. Donc, je vous appelle. J'ai une petite entreprise de recrutement de personnel médical et je m'occupe essentiellement de ce qu'on appelle les déserts médicaux. Ma question était, au gré de mon expérience, je m'aperçois que c'est pas tant qu'on manque de médecins, c'est qu'il manque d'une envie de s'installer en libéral. C'est vraiment une chose qu'on les a dégoûtés. Les lois successives les ont dégoûtés de s'installer en libéral. On fait des maisons médicales dans des zones où il y a manifestement pas de médecins. Moi je vois des mairies qui dépensent des fortunes pour faire des bâtiments, mais ils n'ont pas de médecins. Donc le problème il n'est pas résolu, il en est loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Moi je travaille avec des médecins français et quelques médecins étrangers, mais je veux dire c'est aberrant. Au nombre de médecins sortants en France, on devrait avoir quasiment assez de monde pour s'installer.
Que peut-on faire pour lutter contre la désertification médicale ? Je me permets de résumer un peu votre question, Véronique, excusez-moi.
Il y a d'abord une question de nombre de médecins qui a été évoquée et qui est en cours de
solution. Il préfère être à Cannes ou dans le 17e arrondissement, apparemment.
Oui, enfin, il y a un problème, on en revient à une question fondamentale, il y a un problème de liberté. C'est-à-dire que pour que les médecins s'installent en libéral, d'abord, il faut qu'ils puissent gagner leur vie. Donc il y a un problème de rémunération des médecins. C'est pas absurde de dire que c'est étrange que l'acte médical soit beaucoup moins bien rémunéré que n'importe quel service que vous allez demander à un artisan à votre domicile. Deuxièmement, il faut pas encadrer les médecins dans tous les sens. L'exemple des maisons médicales est très très intéressant. La maison médicale, c'est quoi ? C'est des médecins qui s'associent pour travailler ensemble.
Oui.
La première maison médicale de l'histoire a été créée dans les années 30 à Sablé-sur-Sarthe.
Ah bah voilà, tiens.
J'en profite au passage pour le dire. Donc c'est une très bonne idée. Mais l'administration, immédiatement, l'a encadré de normes, de surfaces, de contraintes, qui fait que les maisons médicales sont progressivement devenues des monstres qui sont trop coûteux, dans lesquels les médecins ne veulent pas aller, et qui ne correspondent pas à cette liberté d'association qui devrait être la leur.
Donc vous favoriserez-vous la libéralisation, au sens le plus premier du terme, du métier de médecin ?
Il faut, avec les médecins, comme avec le reste de la société, passer des contrats de confiance. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs, et puis ensuite, on laisse les professions décider elle-même des moyens d'atteindre ses objectifs.
On marque une première pause, si vous le voulez bien, François Fillon. Et vous qui nous écoutez, vous n'hésitez pas à nous appeler pour débattre avec le candidat Fillon, candidat à la primaire de la droite et du centre, dans quelques instants au 3210.
RTL Matin, suivez notre direct vidéo sur rtl.fr.
Prenez la parole sur RTL.
Un seul numéro, 3210.
8h32, François Fillon est toujours avec nous. Une question arrivée sur le site rtl.fr. Je l'aime bien dans sa simplicité, cette question. Pourquoi êtes-vous resté Premier ministre de Nicolas Sarkozy durant 5 ans ? C'est Nathalie qui vous pose cette question.
Pour une raison simple, c'est que je pense que quand on est au service de son pays, qu'il est en plus en pleine crise, on est loyal et on va jusqu'au bout du mandat qui vous a été confié. Moi, j'ai eu des désaccords avec l'ancien président de la République, mais contrairement à M. Macron, je ne les ai jamais mis sur la place publique.
Donc c'est pas parce que vous n'avez pas osé faire ce qu'Emmanuel Macron a fait avec François Hollande.
Non, je pense que chacun choisit la voie qui l'entend, mais je pense que c'est pas une bonne solution que de quitter le navire au milieu de la crise, qui était en plus notre cas, puisque 2010-2011, c'était des années extrêmement difficiles, et alors que j'avais un soutien, contrairement à M. Macron, de la majorité totale. Voilà, j'ai toujours été complètement soutenu par la majorité parlementaire, et je pensais à l'époque que ça aurait été une forme de trahison que de quitter le gouvernement.
Bonjour Monique, vous nous appelez du département de l'Essonne. François Fillon vous écoute.
Oui, bonjour monsieur. Ma question est la suivante. Je suis retraitée, j'ai lu votre livre, je partage vos idées, je vous donne mon soutien. J'aurais voulu savoir ce que vous envisagez de faire pour les pensions des retraités qui sont bloquées depuis de nombreuses années alors que la vie augmente.
C'est à la fois assez simple et en même temps, je le reconnais, difficile. Il faut augmenter la durée de travail. Il faut passer l'âge de la retraite à 65 ans le plus rapidement possible. C'est ce qui permettra d'équilibrer les régimes et de reprendre une capacité d'actualisation des pensions. 65 ans, c'était l'âge de départ à la retraite avant 1980, à une époque où on vivait beaucoup moins longtemps. 65 ans, c'est l'âge de départ à la retraite de la quasi-totalité des pays européens, à l'exception de quelques pays d'Europe de l'Est qui n'y sont pas encore venus. Et c'est donc un mouvement qui est un mouvement général, que la France ne peut pas toute seule refuser. Et c'est pour moi la condition fondamentale de la solution des problèmes de retraite. Une fois qu'on sera passé à 65 ans, je pense qu'il faudra réfléchir à un système de retraite plus équilibré, avec ce qu'on appelle la retraite par points, avec une part de capitalisation, mais c'est une deuxième étape.
Donc c'est en deux temps, on s'est bien compris.
Absolument.
Hein, ça n'est pas d'emblée.
D'abord passer à 65 ans pour assurer l'équilibre des régimes de retraite et permettre la revalorisation des petites retraites. Je rappelle d'ailleurs que mon gouvernement avait revalorisé le minimum vieillesse de 25%, et c'est tout à fait justifié quand on sait la faiblesse des pensions de certaines catégories de Français. Je pense aux agriculteurs, aux veuves d'artisans, etc.
Merci Monique d'écouter RTL. Maintenant, nous donnons la parole à Michel qui vous appelle de Toulon, dans le département du Var, bien entendu. Michel, on vous écoute.
Oui, bonjour M. Fillon. Voilà ma question. Bonjour. Je voudrais savoir si vous êtes élu président. Pensez-vous rétablir des relations diplomatiques avec la Russie de telle manière que l'embargo alimentaire soit levé ? D'après les chiffres Wikipédia, l'embargo, les exportations françaises avant étaient de 380 millions de dollars vers la Russie, elles sont passées à 23 millions de dollars. Donc, en rétablissement, peut-être que ça aiderait nos
paysans. Je ne suis pas sûr que les chiffres de Wikipédia soient tout à fait exacts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme problème.
Donc, on n'a pas suspendu les relations diplomatiques avec la Russie, heureusement, mais on a pris des décisions que je considère comme des décisions malheureuses, en s'alignant sur la position des États-Unis, en décrétant un embargo qui n'a eu aucun résultat, ou plutôt des résultats négatifs sur l'attitude du président russe, et qui a handicapé handicaper l'agriculture française et l'agriculture européenne. Donc moi, je réclame la fin de ces sanctions. D'ailleurs, le gouvernement français avait annoncé que ces sanctions seraient sans doute levées pendant l'été. Je vois qu'il n'en est rien. Le président Hollande avait, devant le Congrès à Versailles, après les attentats, annoncé qu'il reprendrait avec la Russie un dialogue sur la Syrie et sur l'avenir, sur la lutte contre le totalitarisme islamique. Ça ne s'est pas fait. Si j'étais président de la République, j'aurais une autre politique étrangère et je chercherais une alliance avec la Russie contre l'ennemi principal qui est aujourd'hui le totalitarisme islamique.
Il faut donc une alliance avec la Russie, c'est ce que vous venez de nous dire François Fillon au micro d'RTL. Merci beaucoup d'avoir dialogué avec nos auditeurs, avec Elisabeth Martichoux. Je rappelle que demain, c'est Manuel Valls qui sera notre invité à votre place. Et là aussi, il répondra à Elisabeth. Et ensuite, il débattra et il discutera avec les auditeurs d'RTL au 3210 que je remercie de leur fidélité. Bonne journée à vous, François Fillon.